comment le sauver simplement. Tu as le temps. Enfin, pour quelqu'un, si de parler à quelqu'un de moi plus jeune, c'est tu as le temps de construire ta carrière. Ça sert à rien d'être pressé, d'être le jeune prodige, ce genre de choses. C'est le plus important, c'est de durer. Et surtout, le plus important, c'est faire des images tant qu'on peut et suivre vraiment ses obsessions. Il n'y a que les obsessions qui peuvent tenir sur le long terme et surtout faire des projets par obsession et pas parce que d'un point de vue carrière, ça nous rapportera. Ça sera toujours voué à l'échec. Si on pense que par sa carrière, il faut faire des choses qui nous obsèdent et c'est comme ça qu'on dure.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec William Keo, un jeune photographe ayant l'habitude des terrains en guerre et qui est l'une des dernières recrues de la plus prestigieuse agence photo au monde, à savoir l'agence Magnum. Avant de rejoindre cette structure fondée entre autres par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, William faisait partie du collectif DR que je dirige depuis 2019. William nous parlera de son parcours et de comment il fait pour bien vivre de son métier de photographe. Il donnera de très bons conseils pour décrocher des commandes en France ou à l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de William et je vous souhaite une bonne écoute. Bah, salut William, est-ce que tu peux te présenter?
Salut Fred, William Keo, j'ai 26 ans, je suis photojournaliste indépendant, représenté par l'agence photo Magnum.
Bon, tous les deux, on se connaît depuis un certain temps, puisque tu faisais partie des tout premiers, en 2019, à avoir rejoint le collectif DR, et ensuite on a continué à échanger, et on l'a fait encore aujourd'hui pour parler un petit peu de la situation en Ukraine, puisque tous les deux, on y rentre en fait depuis pas très longtemps. L'idée de cet échange, c'est de partager ton parcours, de parler de ce qui a été des éléments peut-être un peu bloquants aussi pour toi, comment tu as réussi à passer au-dessus de ça, puisque je pense que les gens qui nous écoutent sont intéressés par des parcours inspirants, par des conseils pratiques qui peuvent les aider, tu vois. Et voilà, pour parler de choses qui peut-être toi t'ont aidé et que tu aimerais repartager. Déjà, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes derniers reportages en Ukraine, pour faire un peu dans l'autre sens de la temporalité de tes derniers reportages?
Dernier reportage, j'ai été à Stockholm pour le New York Magazine pour photographier le premier concert de Beyoncé. Voilà. C'était l'ouverture de son Renaissance Tour. Donc, ils m'ont demandé d'y aller comme un spectateur, de photographier le public. Donc, l'angle qu'ils voulaient aborder, c'était le public de Beyoncé, des gens qui venaient de très loin, des États-Unis, de toute l'Europe pour venir à ce premier concert. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Même, je dirais même avant ça, et j'ai travaillé ce week-end, que j'ai un projet à très long cours sur la banlieue française, que j'habite en banlieue. Donc, l'idée, c'était d'aller voir des gens que je connaissais, donc c'est des amis qui habitent en banlieue, et en fait, documenter un peu à quoi ressemble en fait la jeunesse du 93. C'est un peu ça, c'est plus une thématique qu'un vrai angle. Il fallait que je les lutte, parce que j'ai un projet à long terme dessus. Et puis, juste avant ça, l'Ukraine, où je suis resté à peu près quasiment 8 semaines sur le front est, le front du Donbass. Voilà. Et avant ça, d'autres commandes aussi pour le monde en Turquie et en Syrie pour le tremblement de terre. Et avant ça, l'Irak aussi pour le monde sur les réfugiés iraniens qui fuyaient. Voilà. 2023.
Rappelle-nous quel âge tu as.
J'ai 26 ans. 26 ans pour l'instant.
Ok, super. Franchement, c'est super comme parcours d'avoir pu faire tout ça, parce que j'imagine que à chaque fois tu ramènes des souvenirs assez incroyables et que tu vis des trucs assez uniques.
Énormément, énormément. Des fois, ça reste toujours, même si je travaille pour certains gros clients, ça reste la galère. Tu vois, à Stockholm, le New York Magazine, ils ont du budget, mais j'ai dormi à l'aéroport pour économiser du budget pour que, en fait, pour pas couper ma paye. Donc, ça reste quand même de la galère. Mais ouais, franchement, en termes d'expérience et en termes même de vie, tout court au-delà du boulot, c'est quand même. J'ai l'impression que cette année 2023 dure depuis 10 ans, tellement j'ai fait de choses. Mais voilà. J'aime beaucoup la vie que j'ai pour l'instant.
C'est vachement intéressant que tu parles de ça, du fait que on a l'image que d'une grande rédac et d'une grande agence comme Magnum, d'acteurs qui sont assez riches, quoi, notamment en termes de budget, qui sont capables de débloquer du fric pour les photographes. Et là, tu nous dis que c'est pas forcément le cas. Quelle vision, toi, tu as en connaissant maintenant cette partie-là de la profession, et en l'ayant peut-être aussi visualisé avant, et en l'ayant peut-être imaginé en termes d'imagination, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois des différences? Est-ce que c'est comme ce que tu t'attendais à voir, ou est-ce que tu vois vraiment des grosses différences?
Alors, il y a vraiment une vraie différence. Moi, ce travail, je l'ai choisi. Je pense que tous ceux qui terminent photographe et photojournaliste, c'est jamais, au final, pour ceux qui en vivent, c'est pas du hasard. C'est un métier que j'ai énormément fantasmé. Et même, j'ai énormément fantasmé une agence comme Magnum. Je pense que beaucoup de photographes fantasment ce genre de structure. Mais ça reste difficile. Ce que moi, j'ai appris, c'est que, il fallait réfléchir en tant que photographe de façon globale et pas simplement certains secteurs. Par exemple, je vais prendre un exemple comme l'Ukraine. L'Ukraine, quand j'étais à Lviv, la presse est un secteur qui permet de trouver des financements, mais je me suis retrouvé à demander des bourses aussi pour pouvoir repartir, de l'argent personnel que j'investissais aussi, parce qu'on me demande peut-être potentiellement, comme ça fait quelques temps que j'y vais, de réfléchir à peut-être produire un livre, donc d'apporter des images qui sont différentes. De le faire du coup sans commande pour aller chercher des images conçues pour des livres. Certaines de mes photos ont fini au musée du prix Nobel de la paix en Norvège. Donc aussi c'est un moyen de financement. Il y a plusieurs sources de revenus qui font qu'un photographe en vit. La presse est une partie, est une des sources de revenus. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait multiplier ces sources de revenus en tant que photographe dans le milieu de la photographie pour pouvoir en vivre. Ça veut dire que même avec Magnum, je me retrouve à enseigner à l'ESJ Lille, à SPO, ce qui est une école photo, pour multiplier des sources de revenus. La vente de tirages d'art sur le marché de l'art est une source de revenus. Donc l'éditorial de la presse, la commande aussi en corporate. Même parfois, certaines structures comme des ONG sont déjà venues me voir en me demandant si je pouvais travailler quelques jours en Ukraine sur cet aspect du conflit, ou la Croix-Rouge aussi. Donc, c'est un métier où je pensais que ça allait être beaucoup plus facile. Non, c'est extrêmement difficile, même pour des gens qui sont dans des très grosses structures comme Magnum. Je passe plus de temps derrière un ordinateur pour préparer des reportages, préparer des pitchs, appeler des rédacs, ou en tout cas, je travaille avec le staff de l'agence qui appelle en proposant mes angles de reportage. Donc, une agence comme Magnum supporte ses photographes. Elle remplace pas le. Elle ne réfléchit pas à notre place. C'est même les photographes qui apportent leur manière de travailler. Moi, j'ai une manière de travailler et je l'apporte à l'agence. L'agence s'adapte en fonction de ça. J'ai des angles que je préfère, des thématiques que je préfère. Et plus je travaille avec l'agence et plus ils sont au courant, plus ils savent sur qu'est-ce que je suis capable de faire ou non. Et voilà. Parce que par exemple, c'est déjà arrivé que le monde essaye de chercher un photographe qui est beaucoup plus un photographe de combat. Et là, on va vraiment chercher des gens qui ont l'habitude d'être embedded avec des forces armées, qui ont déjà composé avec des tirs, avec ce genre de choses, en fait, des vrais photographes de combat. Et ils vont aller chercher ce genre de profil. Certains vont chercher plus des portraitistes, même en zone de conflit. Et petit à petit, c'est ça qu'ils dessinent. Et même dans ces spécialisations de photographes de conflit, puisque même il y a plusieurs genres, je dirais même sous-genres de photographes de conflit aujourd'hui. Il y a des castings qui sont faits sur est-ce qu'ils sont capables de faire ça ou est-ce qu'ils vont chercher un certain genre de sensibilité. Donc, c'est un métier que j'ai beaucoup fantasmé, qui est plus difficile que je ne le pensais. Et ce qui est difficile, c'est de le tenir sur le long terme. Parce que bon, peut très bien qu'on commande pendant un an ou deux et puis un jour tout s'effondre et il faut rebondir, il faut être intelligent, chercher d'autres sources de revenus. Parce que faut pas oublier, c'est bien de dire qu'on publie, mais c'est pas ce qui paye le mieux et surtout, sur le long terme, c'est pas forcément ce qui est le plus viable. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais.
T'as même répondu à d'autres questions que j'allais te poser, donc tant mieux. Justement, en parlant de la presse, C'est quoi la part à peu près en termes de pourcentage que de tes revenus en revenus presse, on va dire?
Revenu presse, je dirais que c'est un bon 40% de mes revenus sur l'année. Moi, je pense que je fais plus. J'ai quand même des commandes régulièrement. J'ai quand même plus de revenus que la plupart de France des photojournalistes en termes de revenus presse. Parce que l'avantage avec une agence comme Magnum, c'est qu'on bosse avec une variété de clients qui est énorme et parfois des clients qui sont de niche et personne ne connaît, mais qui ont vraiment beaucoup de budget pour sortir pour des reportages. Par exemple, l'an dernier, je me rappelle, j'ai travaillé pour un magazine qui s'appelle Monocle, qui est un magazine anglais. Je pense que très peu de gens en connaissent, mais comme ils avaient vu un portfolio que j'avais fait sur les élections et ils savaient que j'étais intéressé pour couvrir les élections du côté extrême droite, et ben, j'ai eu 2 semaines de reportage payé dans le sud de la France, dans la French Riviera. Ils voulaient un reportage sur entre Perpignan et Nice sur la montée de l'extrême droite. Donc ça représente quasiment 7 000-8 000 livres sterling de paie. Mais c'est énorme. Je pense que tout le monde n'a pas ça. Et je pense que ça, ce qui représente quasiment 10 000 euros, 10 000 euros, c'est parfois ce que font les gens annuellement en termes de reportage presse. Et puis plus ça, puisque ce que j'ai travaillé avec Le Monde, avec aussi des revenus que j'ai avec National Geographic, avec Libération, qui m'ont mis 8 semaines en reportage, donc une quarantaine de jours de commandes, ce qui est extrêmement rare. Bah, je pense que je vis de la presse plus que, en tout cas, beaucoup de photographes, quoi.
Ben, c'est bien, c'est inspirant, ça montre que c'est possible, même si tu le dis, hein, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu penses que c'est impossible? Est-ce que tu penses, si tu devais recommencer à zéro demain, sans avoir Magnum derrière toi et sans avoir l'expérience que tu as eue et les connaissances que tu as, tu penses que ce serait possible aujourd'hui en 2023?
Possible, mais la photographie, ce qui est difficile, c'est que je pense que tous les photographes se disent, ou en tout cas peuvent penser qu'ils sont parfois meilleurs que d'autres. Je pense que tout le monde s'est dit ça en disant que je comprends pas, mes photos sont meilleures, mais elles se vendent pas. Mais en fait, ce qui est dur en photographie, et même sur les jeunes que je vois, c'est, je leur dis tout le temps, il faut construire un portfolio et avoir une certaine réputation. Et la réputation, tu peux l'avoir que avec le temps. Surtout quand on travaille sur des zones compliquées, comme par exemple. Même quand on s'est rencontrés, je travaillais déjà en Irak et en Syrie. Et pendant des années, j'ai pas eu de commandes. Mais aujourd'hui, tu vois, je commence à travailler en Irak et en Syrie pour Le Monde. Et je suis l'un des seuls photographes français qui travaille dans cette région parce que j'y suis allé quand plus personne n'y allait. Je suis allé tellement de temps, j'y vais tous les ans depuis 2018. Donc, au bout d'un moment donné, quand on travaille ses contacts, ses angles, on a des accès intéressants et sur le long terme, ça fait la différence. Et je me suis spécialisé sur des régions, et c'est vrai qu'on m'appelle pour des commandes des fois en Ukraine, mais en Ukraine, j'y allais déjà en 2018, quand tout le monde s'en foutait. La Syrie, j'y allais quand tout le monde s'en foutait, je travaillais sur des sujets à long terme, quand les gens s'en foutaient. Et je me disais juste que c'était le terrain que des gens abandonnaient parce qu'il y a moins d'actualité, et je me suis dit, bon, ça va payer un moment où les gens m'appelleront parce que j'y suis allé quand tout le monde s'en foutait et qu'il n'y avait plus d'actualité, mais ce qui fait que c'est sur quoi on va m'appeler, parce que j'ai les contacts qui sont tout frais, qui sont actuels, que j'ai mes entrées, que j'ai mes réseaux de fixeurs, ou qu'on me pose une question sur est-ce que c'est possible et que j'ai une vraie réponse. Et c'est possible, mais il faut du temps. La photographie, ça prend du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps qui fait la différence. Par exemple, j'ai travaillé quasiment 6-7 ans sans commande avant d'avoir ma première commande il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 3 ans, tu vois. Donc, je pense que c'est l'investissement qu'on y met qui fait la différence. Après, là, je cite des zones qui sont difficiles d'accès, comme la Syrie, l'Irak, l'Ukraine, c'est un peu plus facile, mais c'est un terrain qui est très dangereux. Je pense qu'il y a même pour les photographes qui travaillent en France, il faut travailler à long terme, et c'est ça qui va faire la différence, qu'on va nous identifier dans les rédactions en disant, ah, mais il y a lui qui travaille depuis un moment, il a des accès, c'est actuel. C'est possible, mais ça demande du temps, et je pense qu'il faut que ça se réfléchisse avec un vrai plan. Le plan que moi j'ai eu, et je l'ai eu parce que j'ai rencontré assez jeune un photographe de Magnum, Jérôme Sissini. Il m'a dit que j'avais un premier taf qui était bien payé. Et il m'a dit qu'il fallait que je le garde jusqu'à ce que la photographie fonctionne. Et il a eu raison. Pendant longtemps, et puis même quand j'étais au collectif, et même quand j'ai rejoint Magnum, je n'étais pas photojournaliste à plein temps. J'avais un premier taf qui m'a permis de financer la photographie, mes voyages, tout ça. Et au bout d'un moment donné, ça a payé. Mais je pense que c'est possible, mais ça prend du temps. Et pareil, tu vois, c'est une discussion que j'ai eue longuement avec mes amis sur la course à être un prodige. De façon très inconsciente, et donc, enfin, de façon très consciente, je voulais réussir très jeune, mais ça correspond, si c'est juste un truc, c'est un truc d'ego, tu vois. Le plus difficile en photographie, c'est de durer sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est là où, en fait, on construit des vraies carrières. Et c'est dur de vouloir battre son ego et c'est possible de réussir, mais qu'il y a un vrai plan et ça se fait pas au hasard. Le plus dur, c'est de durer et il faut travailler longtemps sur les sujets avant d'être identifié comme spécialiste. Et ouais, c'est tout. C'est possible, hein. C'est vraiment possible, mais c'est très dur. C'est très dur. Et Magnum, forcément, ça accélère des carrières et même au sein de l'agence, ça reste difficile de faire sa place, même avoir des commandes, avoir ce genre de choses parce que l'agence, elle vend des choses qu'on a déjà. Ils vont pas inventer un CV qu'on n'a pas. Ils vont pas inventer des spécialisations qu'on n'a pas. Quand ils appellent, ils disent, bon, écoutez, William, il travaille là depuis un moment, ou il va en Ukraine depuis un moment, donc il connaît un peu plus. C'est le bon casting, c'est la bonne personne pour le faire. Oui, il a déjà fait ça, donc c'est la bonne personne pour le faire. C'est un truc, il le prouve par le portfolio. Et je pense que plein de photographes se disent et se sentent capables de faire des sujets. Et peut-être qu'ils ont raison, mais il faut qu'ils le prouvent avec un portfolio parce que c'est un truc qu'on me disait déjà, c'est Jérôme me disait ici, de toute façon, tu vas montrer des photos et pas des excuses. Tu auras beau dire que tu es capable de le faire, personne ne te croira si t'as pas montré ça dans ton portfolio.
Ouais, c'est marrant, c'est la phrase que disait Pascal Maître, tu sais, dans le podcast que j'avais mis en intro d'ailleurs pour ceux qui veulent écouter cet épisode qui est excellent, dans lequel il dit chez National Geographic, il y a une phrase qui tourne beaucoup qui est ici on veut des histoires, pas des excuses, quoi. Donc on s'en fout de savoir que t'as pas réussi à faire le truc ou que t'avais plus d'argent ce jour-là ou que t'avais pas le temps, que t'as raté le truc et tout. C'est un truc qui se voit énormément sur des territoires comme l'Ukraine. Pour avoir vécu un peu le truc, on est allé plus ou moins aux mêmes endroits là dernièrement, autour de Bakhmout. Et tu vois, je regardais un peu tes stories en me disant, putain, on était au même endroit. Et il a réussi à voir les mecs qui rentraient, les blessés qui rentraient du front à l'endroit exact où on était. Là où, tu sais, t'as les ambulances blindées là qui vont récupérer les mecs sur le champ de bataille. Et tu vois, on a attendu pendant une journée entière avec Chauvel pour pouvoir monter on avait l'autorisation pour monter dans les ambulances blindées pour aller sur le front. Et en fait, le truc, c'est que tant qu'ils y vont pas, on n'a pas besoin d'y aller. Donc du coup, on a raté la journée. Et toi, je pense que vu que tu es resté plus longtemps, que tu as eu aussi le côté chance, qui est le facteur chance, peut-être que tu peux nous parler aussi de ça, parce que c'est important. Hein. C'est un truc qu'on fantasme beaucoup et qui est ultra important. C'est le fait de durer, c'est que tu as raison, c'est ultra, ultra intéressant.
Ouais, bah, par exemple, pour prendre l'exemple sur le cas de l'Ukraine, la première fois que j'y suis allé pour Libération, je suis allé à peu près une cinquantaine de jours, entre toutes les commandes, en gros. Et la remarque qu'on s'était faite, même avec des photographes de l'agence, c'est plus tu restes et plus tu as de chances de multiplier tes chances de faire des bonnes photos parce que tu es là longtemps. Et moi, quand j'étais parti en Ukraine cette fois-ci, je suis parti à peu près mi-mars, fin mars, et je me suis dit, je prends pas, il n'y a pas de billet de retour. Et devant moi, j'ai un boulevard de temps et je rentre quand j'en ai marre, tu vois. Et quand on est parti aux mêmes endroits, et pareil, les premiers trucs, je me suis dit, bon, là-bas, comme la première fois, ça marche beaucoup, hein, on paye des coups, on paye des clopes, et on est sympa avec les gens, et ça marche, tu vois. Et moi, quand j'ai briefé mes fixeurs et tout, j'aurais dit, écoutez, moi, je veux ça. Moi, de toute façon, le compte des morts, il est confidentiel, il y a que deux moyens, je pense que vous avez la même réflexion, il y a quelques moyens pour savoir combien à peu près il y a de morts ou se rendre compte, c'est faire des évacuations ou faire des cimetières. Bon, les deux sont interdits normalement par la loi martiale de la photographie. Mais quand on a débarqué dans les endroits près de Bakhmout, forcément, les ambulanciers, j'ai pris leur contact et j'ai passé du temps. Vraiment, j'ai pas eu énormément de photos. Et je me suis fait pote avec, en tout, je pense, à peu près 6 ou 7 médecins différents, d'unités différentes, sur le bord de la route, dans les ambulances à Tassivia, dans les différents mecs. Et on leur disait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bon, on ne prenait pas en photo. On négociait, c'est que de la négociation. Et pour avoir ces photos-là, j'ai dû passer en tout quasiment 10 jours. Mais je l'ai fait sans commande. Et des fois, il faut le faire sans commande pour avoir ce genre d'image. Et le facteur chance, il est énorme. De toute façon, il y a énormément de photos qui se font par chance. Et en fait, pour multiplier ces chances, il faut passer du temps. Et les gens ne se rendent pas compte. Le reportage de guerre, ça coûte très cher. Ça coûte horriblement cher. Il faut avoir du temps, du budget. Il faut passer du temps, bon, soit il n'y a que le temps qui fait la différence, je pense, surtout sur des terrains assez compliqués. Et ouais, il faut multiplier ses chances, il faut rester longtemps. Et puis même, il y a très longtemps, même quand j'étais encore au collectif et avant que je rentre à Magnum, pour faire des opérations antiterroristes en Syrie, il faut lui passer du temps. Il passe un temps monstrueux. Et moi, j'avais passé à peu près 40 jours pour attendre juste l'accès et qu'il se passe quelque chose. Et c'est long. Qui a le temps de passer 40 jours à attendre? Et ouais, pour les gens qui sont pas allés sont pas encore en Ukraine, il suffit pas de débarquer. Il y a des choses qui tombent. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué de négocier des accès, à quel point il faut passer du temps. Et il faut passer du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il faut dormir avec les gens, il faut manger avec eux, il faut fumer des clopes avec eux, il faut discuter de tout et de rien, se montrer des photos, démontrer qu'on est capable d'eux. Et tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que franchement, j'ai l'air jeune, tu vois. J'ai l'air d'avoir 26 ans au moins. Et ça, des fois, ça jouait contre moi, parce qu'il disait, bon, il n'a pas d'expérience, en fait, parce qu'il est trop jeune pour avoir d'expérience. Et il fallait prouver par A plus B ou par d'autres facteurs que tu étais capable de faire, tu vois. Et après, bon, l'Ukraine, c'est un sujet particulier, mais même pour n'importe quel sujet en France, il faut passer tellement de temps sur des sujets, attendre des situations, qu'il se passe quelque chose pour avoir des images, pour avoir juste une bonne image. Et il faut passer beaucoup de temps. Faut investir beaucoup sur soi, mettre beaucoup d'argent de côté pour partir. Je sais pas combien de temps tu payes tes fixeurs, mais dans le Donbass, pour avoir des accès, ça peut aller jusqu'à 600 euros le jour, tu vois. Pour avoir des mecs qui vont très près du front et qui ont des images, on va dire, des images où ça tire, quoi. Et des mecs qui prennent 600 balles par jour, c'est énorme. Je payais pas mes fixeurs à ce prix-là, mais ça peut aller jusqu'à là, quoi.
Ouais, moi, c'était dans les 350 jours, mais c'est vrai que c'est extrêmement cher. Et tu mets le doigt sur un truc qui est ultra important que très peu de photographes comprennent, notamment quand ils viennent de l'univers du corporate, du mariage, enfin, qui viennent pas de l'univers de la presse. C'est peut-être le truc qui est vraiment fondamentalement différent entre ces deux univers, entre l'univers photographie de presse et photographie corpo, en englobant tout ce qui est travail pour des clients hors presse. C'est le concept de. Tu ne travailles pas avec un taux horaire, encore moins un taux journalier. Tu avances énormément d'argent, t'attends pas qu'on t'appelle pour faire un truc. Tu n'as pas un seul client, tu dois en avoir plusieurs. Et ça, c'est une question de mindset, quoi. C'est une question d'état d'esprit que tu dois avoir. Est-ce que toi, tu l'avais dès le départ, parce que tu avais des mentors comme tu as parlé de Jérôme Cecchini. Est-ce que tu l'as compris direct ou est-ce que ça a été un, t'as dû le concevoir au fur et à mesure, tout ça?
Je l'ai conçu au fur et à mesure parce que je suis quelqu'un de têtu. Donc, j'aime bien me tromper et fortement bien me tromper et perdre beaucoup d'argent. Donc, oui, forcément, au début, je l'ai fait à ma sauce, ça n'a pas marché. Et après, j'ai écouté un peu des gens qui avaient un peu plus de bouteilles et comme par hasard, ça se déclenche. Et oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris par des erreurs. Et forcément, dans l'échange, on apprend. Et c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Malheureusement, enfin, en investissant et en comprenant par moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et puis, il y a Jérôme. Et puis, dans cette agence, on est assez bien entouré, surtout quand moi, je suis nominé à l'agence. C'est un statut où on est un peu sous la supervision des photographes. On n'est pas membre. Et je demande à n'importe quel photographe et tout le monde est assez ouvert. Donc, j'ai eu des longues discussions aussi avec des gens qui avaient de l'expérience, avec des gens comme Paolo Pellegrini, Moïse Staman. Il y a des gens qui ont énormément bossé pour. Enfin, je me demande pour qui ils n'ont pas bossé, en fait, sur tout ça. Et ouais, il disait, ce qui est difficile, il faut s'investir sur des territoires, il faut y aller par soi-même, il faut y aller en commande, pour différents clients, parfois tout seul. Et il faut trouver la bonne balance. Il faut un peu tout faire pour trouver, pour pas être frustré. Et il faut savoir aussi pitcher les bonnes histoires. Peut-être que ça va être moins plaisant d'un point de vue personnel parce que c'est une commande, donc on répond à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de notre vision. Parfois, on n'a pas autant de temps de boulot qu'on veut, mais ça correspond à la commande et il faut savoir composer avec. Et aujourd'hui, ça j'essaie de bâtir mes projets comme ça, comme l'Ukraine. Cette fois-ci, je l'ai fait sans commande, j'étais assez libre et je pense que très peu de rédactions auraient accepté que je prenne autant de risques sur ce que j'ai fait. C'est ça le jeu, quoi. Il faut beaucoup investir. Une fois au monde, en lecture de portfolio, c'est Marie Soumala qui m'avait dit ça, qui s'occupe de la politique aujourd'hui. m'a dit que le reportage, c'est un sport de riche. Parce qu'on investit tellement d'argent, on en perd beaucoup. Et c'est ça qui fait, ça qui fait ce travail. Parfois, on gagne 10 000 balles, mais on en réinvestit 8 000 pour partir en reportage, pour avoir ces images-là, pour repartir par derrière.
Ouais, ou parfois tu gagnes 10 000, l'autre coup tu gagnes zéro, tu perds du coup 10 000 parce que tu as mis 10 000 d'investissement, et puis inversement, et tu continues à mettre dans le pot un peu comme un joueur de poker un peu taré.
Exactement. Et je pense qu'il faut aussi multiplier les commandes avec d'autres choses. Par exemple, là, ce qui fait faire mon année en termes d'argent, c'est des petites commandes, les trucs que je fais pour Beyoncé ou un gros sujet que j'ai en juillet pour le New York Times en Irak. Et c'est ça qui va faire mon année. C'est pas vraiment ce que j'ai fait en Ukraine qui va pas me rapporter beaucoup d'argent, mais qui va épaissir mon portfolio, peut-être pour des projets futurs personnels, pour des expos, pour un livre ou pour des projets collectifs. Et cette fois-ci, j'ai fait plus de photographies de combat ou des choses un peu de ce style parce que je suis capable de le faire. Et je sais que quand on va en Ukraine, il y a beaucoup d'indépendants, il faut se sortir du lot. Et il n'y a pas non plus une masse de photographes de combat dans les photographes indépendants qui vont en Ukraine, quoi.
Ouais, moi ça m'a un peu choqué d'ailleurs de voir si peu de photographes. Après, nous, on a fait le choix de partir juste après l'anniversaire de l'invasion, en se disant que de toute façon ça sera blindé de journalistes et qu'il se passera pas forcément grand-chose s'il faut. Et on a fait un bon pari parce qu'il s'est pas passé grand-chose et tout le monde est resté une semaine et puis est rentré chez soi parce qu'il n'y avait rien à faire. Et nous, quand on est arrivé, il n'y a plus personne, l'hôtel man était vide. Et c'est là que tu te dis, ok, là il y a un truc à faire. C'est-à-dire tu dois penser un peu en dehors de la boîte, quoi, penser différemment que les autres, prendre peut-être plus de risques. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement, de comment toi tu perçois le risque et la prise de risque? Un peu à tous les niveaux, quoi, aussi bien ton histoire personnelle, ta façon de gérer ta vie perso, familiale, l'argent peut-être, et puis ensuite ta prise de risque physique, quoi, quand tu es dans une ville comme Chasivia où tu es clairement sous une pluie de bombes, littéralement, quoi, où tu entends que ça tombe, ça part, des départs et des arrivées de mortiers, ça fait vraiment flipper. Comment tu vois ça, toi?
Je pense que déjà risque personnel, je pense que comme là je suis nommé à l'agence, j'ai beaucoup de choses à prouver même à moi-même et aux autres. Risque financier, là par exemple, tu vois, je vis à moitié chez mes parents et à moitié chez ma copine quand c'est le cas. Donc là, tout l'argent quasiment que je le mets dans des reportages, dans du matériel, dans des trucs. Donc j'ai un risque financier qui est énorme. Là, je suis dans une phase de ma vie où, en fait, je peux quasiment rien construire, tu vois. Je dépends de mes parents, enfin, je dépends en partie de ma copine, en tout cas, en termes de logement. Ma vie, elle est balancée entre gagner un peu de thunes, le réinvestir dans des projets, partir par ici, partir par là, mettre un peu de côté pour au cas où, tu vois. Pour l'instant, ma vie se partage comme ça. Et, d'un point de vue très personnel. J'ai des gens qui me soutiennent, qui comprennent le projet que j'ai. Ils savent que c'est en misant sur le long terme que ça va fonctionner, mais que je suis dans une phase où, en fait, j'ai des choses à prouver. Ensuite, le risque, par exemple, je fais du front et pas que en Ukraine parce que je me sens capable de le faire. Que derrière ça, depuis de nombreuses années, depuis 6-7 ans, j'ai fait d'autres fronts et ce qui fait que je suis toujours en vie, je me dis que c'est aussi beaucoup de chance et aussi beaucoup de logique. Mais que j'ai jamais été blessé, j'ai jamais été dans une situation très extrême, mais j'ai toujours pris des bonnes décisions parce que je suis quelqu'un qui est très, on va dire, pragmatique. Mais c'est des risques que je suis prêt à prendre parce que je suis capable de les prendre. Je sais que c'est pas des discours que tout le monde peut avoir, mais je suis prêt à prendre ces risques-là parce que ça m'intéresse, que j'ai envie de le faire, pas parce que c'est d'un point de vue de carrière, parce que juste ça m'intéresse et que des fois, en fait, c'est là où se passent les histoires. Au-delà de moi et d'accepter le risque de qui est inhérent à ce métier, surtout quand tu disais Chassilia, des départs et des arrivées partout. C'est de convaincre les gens les gens avec qui tu vas bosser, qu'il faut le faire. Et tu vois, je suis tombé, j'ai travaillé avec en tout cas 4 fixeurs différents. Et en tout cas, il y avait 3 fixeurs avec qui j'étais confortable de le faire. L'autre, il avait moins d'expérience, donc je me suis dit que je n'allais pas faire une ligne de front avec lui. Mais les 3 autres, ils étaient très au fait des risques et on avait fixé des limites. Tu vois, en fait, Notre zone, ma zone de confort, elle est peut-être plus grande que certaines personnes, mais j'ai pas non plus, je suis pas sans limite, tu vois. Il y a des trucs que je ferais pas. Tu vois, par exemple, Tiassivia, à côté de Barmouth, on a accepté, et les gars ont accepté, et j'ai accepté de le faire parce qu'on le faisait avec, parce qu'on y allait avec des militaires ou avec des mecs qui évacuaient des civils. Donc, pour moi, c'est le minimum à avoir. Sinon, c'est non. C'est aller par soi-même. C'est trop le risque de tomber nez à nez sur des endroits où faut pas être, ou des endroits, en fait, que tu connais pas assez. Et c'est ça. Moi, j'étais prêt à prendre ces risques et je suis toujours prêt à prendre ces risques-là parce que ça m'intéresse. Mais ça dépend. Tu vois, par exemple, comme je disais tout à l'heure, j'en ai eu marre au bout de 7 semaines parce que, au bout de 7 semaines, je me rendais bien compte que, à passer autant de temps à esquiver des bombes et rouler sous des trucs, ça, tu te désensibilises, ta notion de sécurité, elle est complètement poussée à un extrême. Et qu'en fait, tu vois, les gens qui prennent les décisions, c'est que moi. Et ben, je me suis dit, bon, c'est le moment, en fait, où j'ai perdu toute lucidité, c'est le temps de rentrer. De rentrer, faire autre chose, faire d'autres commandes, me reposer et de repartir et de réatteindre à chaque fois cette limite, de la repousser à chaque fois. Mais je me fixe des là qui sont très pragmatiques, en disant que, OK, si on va, si on est en droit bombardé, on reste 20 minutes maximum, et ensuite on se barre. On joue pas avec la chance plus loin. Ça sert à rien de traîner, tourner autour de la situation trop longtemps. Et surtout aussi, moi, avec le temps, j'ai appris à me dire qu'est-ce qu'il me fallait ou pas. Par exemple, j'avais pitché, et je disais à mes fixants en disant que on a des sujets à aborder, mais s'il se passe un fait d'actualité comme un bombardement, on y va parce que j'ai besoin de photos où il y a des zones civiles en feu. On y va, mais si on y va, on y va 20 minutes. Et s'il se passe quelque chose avant, on y va et on aura assez pour la journée. Et en fait, en fixant des règles comme ça permet de fixer des cadres, on va dire, qui ont l'air sécuritaires, et c'est le minimum de risque que c'est le maxi, enfin, c'est le minimum que je puisse avoir. Je suis pas non plus inconscient en disant que je vais camper dans les endroits où il peut se passer trop de choses, mais je me fixe quand même des règles. C'est des risques que je suis prêt à prendre, et parce que j'en suis complètement conscient, que j'ai briefé les gens avec qui je suis. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais je travaille dans un risque qui est gigantesque pour les gens, mais je me fixe des limites. On va dire qu'en termes de temps, il n'y a que ça qui peut marcher. En tout cas, avec les gens avec qui je le fais. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Et puis même, c'est des règles que j'ai découvertes en travaillant avec d'autres gens, avec des gens qui bossaient, par exemple, pour RFI ou avec l'INBE quand je bossais pour eux, ou même avec Le Monde. Si on va à des endroits très dangereux, on fixe un temps limité pour limiter le danger, ou on y va, mais avec un certain type de personnes pour limiter le risque. Tu vois, c'est un peu ça.
Ouais, je vois carrément. En plus, tu parles d'un truc qui est ultra intéressant qu'on n'imagine pas forcément, c'est ce que tu dis, la capacité à se désensibiliser du risque et de la situation. Typiquement, je vois exactement, hein, quand je suis arrivé à Chassivière la première fois, quand tu entends les bruits d'explosion, mais vraiment très proche de toi, quelques centaines de mètres, le bruit que ça fait, c'est un peu comme si t'étais dans un film, mais t'es pas dans un film, quoi. Ça te rappelle tellement la réalité que sur le coup, tu sursautes. Tu es tétanisé, et après, au bout d'une journée ou deux, en fait, t'as le même bruit, mais tu vas plus sursauter, tu vas plus trop faire attention au truc, et c'est là que c'est dangereux, en fait.
Ça, c'est dangereux, ouais. Tu l'acceptes. Et puis même, tu vois, je me rappelle, j'avais travaillé avec une équipe qui était formidable. Là, c'est parce que je savais que j'allais faire du front et des évacuations. Les évacuations, les mecs, c'est des dingues. Ils vont dans des zones grises où il y a à la fois des Russes et des... Enfin, tu sais pas trop ce qu'il y a là, mais tu sais qu'il y a des gens qui veulent être évacués. Je me rappelle, hein, je fais des briefs d'équipe parce que potentiellement, je pense que pour beaucoup de gens qui ont un peu d'expérience, qui ont fait des conflits avant, on a plus d'expérience que les fixeurs qui sont sur le terrain. Et c'est bien de rappeler les règles en quoi tu bosses. Moi, j'avais un chauffeur et un fixeur, donc j'avais une équipe, on était trois, et le fixe et j'avais on a fixé des règles. On disait, ben, position, le chauffeur équipe pas le véhicule, toujours en position de départ, casque gilet obligatoire s'il se passe un truc. Mais c'est bien de rappeler des briefs. Et moi, tous les matins, quand on disait, bon, on y va, voici ce qui peut se passer, voici les règles, voici la liste d'urgence, voici ce que tu fais, et de se le rappeler perpétuellement. Est-ce que tu as ta trousse de secours, tu as ton tourniquet, où est-ce qu'ils sont dans tes affaires, est-ce que tu as des cideaux, est-ce que tu vois, c'est toujours se rappeler, Parce que sinon, en fait, on ne se rend pas compte, mais les blessures et les blessures les plus graves, elles arrivent en un claquement de doigts. Ça arrive en moins de 5 secondes, on peut y rester, quoi. Et si c'est pas, il n'y a rien qui prévient, quoi. Et pareil, quand il y a des gens qui ne savent pas réagir en cas de situation très grave, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que il vaut mieux s'allonger par terre que courir. Et ça, c'est des trucs que je voyais dès les premiers jours avec mes infections. Je disais, ah, cours pas. Si tu courras jamais plus vite qu'un morceau de charpennerie qui vole, en fait, couche-toi au sol, le plus près du sol possible, face contre terre, t'auras plus de chances de survivre que de courir, en fait. Si tu cours, tu vas aller où? Tu vas même sur les déplacements. Quand on se déplaçait, je disais, mec, marche pas au milieu de la route. Y a pas de mur à proximité, marche le long de telle maison, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on se répétait tous les jours, parce que oui, avec le temps, plus tu passes de temps et plus tu banalises la violence, et plus ta vigilance elle baisse, et c'est bien d'avoir des habitudes systématiques dans un endroit. Et ouais, peut-être qu'on peut avoir l'air un peu idiot et complètement sur, on va dire, se surprotéger, mais c'est en fait c'est ce qui va nous maintenir en vie. Et je préfère me jeter au sol à chaque bruit de incoming que de me dire à un moment donné, oh, bah, il ne se sera rien. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de journalistes et gens blessés parce qu'ils ont trop banalisé les trucs en disant, bon, ça ira. Mais en fait, non, ça ne va jamais. Et même un éclat à 100 mètres, il peut te trancher la tête, en fait. C'est ça la réalité du terrain. Il ne faut pas non plus romantiser les trucs. C'est des terrains qui sont hyper dangereux parce que c'est. Bah, même tu l'as vu, ça tombe vraiment n'importe où, en fait. Il n'y a pas de règle, en fait. Tu peux être au milieu d'un champ, en train de pisser, ou à l'intérieur d'un bâtiment, tu peux recevoir un grade ou un truc qui traverse le plafond. Ça, c'est réel, hein.
Ce qui est encore plus dingue, je sais pas si tu l'as ressenti le truc, mais le fait d'être toi dans un village où il y a encore de la vie, il y a encore des gens qui vivent là, et c'est un truc, c'est complètement inconcevable quand tu arrives. T'as l'impression que c'est une zone de combat en fait. Techniquement, c'est une zone de combat, c'est bombardé. Il y a des mecs qui se cachent dans les maisons, qui sortent avec un mortier, qui font un départ de coups, qui se replanquent. Et entre deux, tu vois une petite vieille, un petit vieux qui passe avec un pack d'eau. Qui marche tranquillement comme si de rien n'était, ou sur son vélo comme si t'étais chez toi, quoi, en fait. Et toi, t'es avec ton gilet pare-balles, ton casque lourd, et tu regardes la petite vieille qui marche devant toi, qui te regarde un peu chelou. Et là, tu te dis, mais putain, mais on est où? Et là, effectivement, tu te
Ah,
dis, peut-être, en fait, à un moment donné, à force, tu te dis, c'est bon, en fait, ça tombera pas sur moi, ou. Sais pas, c'est un peu bizarre.
ouais, c'est ultra bizarre. Enfin, ouais, les soldats ukrainiens appellent ces gens-là les zombies. C'est des gens, ils ont tellement l'habitude, où ils sont tellement bornés qu'ils restent là et ils s'en foutent parce qu'il n'aurait jamais rien arrivé. Même si leur maison, il y a un trou dans le toit, disons. C'est un trou dans la cuisine et pas dans ma chambre, c'est un gars là. Et même quand je faisais des évacuations avec des gars, ils passent leur journée à dire, faut partir là. C'est tombé à 15 mètres, les gars. Enfin, vous attendez quoi de plus que ça tombe sur votre maison? Vous vous rendez compte que ces gens-là voulaient. Et les gens disent, non, c'est bon, ça ira pour moi. Je fais, non, mais ça va pas en fait. Il n'y a rien qui va, mais je pense qu'ils ont plus conscience, ils ont perdu toute lucidité sur des situations. De ce niveau-là, je vois pas enlever mon casque et mon gilet et traîner avec eux parce que eux, ils disent, oh, bah, ça risque rien. En fait, ils ont perdu toute lucidité. Je préfère avoir l'air con avec mon casque et gilet parmi des gens qui n'ont rien et survivre à un truc plutôt que de jouer avec mon ego, avec la chance. C'est beaucoup trop dangereux. En plus, l'Ukraine, c'est pas le terrain, c'est le moment d'expérimenter ce genre de truc ou vérifier des théories. Mais surtout, ouais, pareil, les gens qui se baladent que avec un gilet, ils mettent pas leur casque, bah, c'est pour eux, mais ils n'auront pas le temps de le mettre quand on entend un truc. Je pense que tu l'as vu. Un truc qui tombe sur toi, tu as 2 secondes pour réagir, en fait. Mais littéralement, 2 secondes chrono. Au-delà de 2 secondes, c'est vraiment. Enfin, 2, 3 secondes, c'est rien du tout, en fait. C'est un laps de temps juste pour te mettre au sol ou trouver un truc sur quoi te coucher, en fait, sur quoi te coucher. Il n'y a pas le temps, en fait, de réagir. Hein. Donc, ouais.
Ouais, c'est impressionnant. Pour revenir un peu sur la question du risque, tu l'as dit, en plus, là, au moment où on enregistre cet épisode tous les deux, c'est l'anniversaire de la mort du journaliste de BFM, Frédéric, qui s'est fait tuer justement avec un éclat alors qu'il était dans un bus d'évacuation de civils assez loin du front, et surtout avec son gilet pare-balles et son casque. Et là, vraiment, pas de chance quoi d'avoir pris cet impact et être mort à cet endroit-là. Il y a quelques semaines, il y a un autre collègue, un autre caméraman de l'AFP qui s'est fait tuer, bah, châssis vire aussi. Et pour l'avoir vu sur place, lui aussi, il sortait pas sans son casque, sans son gilet, et puis sans son garde du corps de l'AFP. Et malgré tout ça, il n'est plus là. Comment toi, tu vois ça? Tu te dis, est-ce que tu développes une certaine forme de, je vais pas dire de cynisme, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, d'être capable de se dire, bon, bah, pas de chance, quoi, c'est comme ça. Et s'il faut, ça m'arrivera. Et puis, tu vois, comment toi tu vois ça et est-ce que tu luttes contre ça peut-être?
Beaucoup, comme beaucoup, je pense. C'est très cynique hein, de dire que bon, il y a des gens qui ont des confrères et des collègues qui meurent sur le terrain, même après avoir toutes les précautions d'avoir le garde du corps, le security manager, tout, gilet, casque, véhicule, tout. Forcément, moi, ça me rend cynique. Je me dis, bon, bah, là, c'est vraiment pas de chance, quoi. T'as beau minimiser tous les risques possibles, ça peut arriver quand même. En plus, des gens qui sont sur le terrain depuis certains moments, c'est un peu la loterie, quoi. Après, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de limiter mes temps d'exposition quand je vais vraiment sur le front ou dans des zones de bombardement. Parce que je me dis, potentiellement, ça, bah, plus. C'est comme plus tu passes de temps et plus tu as de risques que ça t'arrive. C'est pour ça que j'essaie de pas. Je sais que ça peut paraître très romantique de dire je passe 48 heures ou une semaine sur le front avec les mecs dans la boue. Mais en fait, faut savoir est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je regarde aussi le résultat, qu'est-ce que je rapporte de ça. C'est malheureusement, bon, on est photographe, c'est très dur de se rendre compte de se rendre compte de la dangerosité du terrain si on n'en parle pas par l'image. Par exemple, tu vois, j'ai raconté à mes potes à quel point c'est dangereux de travailler là. Ils vont dire, ah ouais, c'est vrai. Et puis en fait, une fois, j'ai filmé une évacuation que j'ai faite où je me jette par terre et ils me disent, ah ouais, c'est vraiment dangereux. En fait, tant que je ne l'ai pas montré avec ce médium-là, vous vous rendez pas compte. Mais ce qu'en photo, il n'y a pas de son, il y a du mouvement, mais à part si les gens ne courent pas ou si tu cours pas, on s'en rend pas compte. Et en fait, je me pose la question, qu'est-ce que je vais rapporter en image? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le risque en vaut la chandelle pour rapporter ce genre d'image? Bon, une image vaudra jamais une vie, mais est-ce que ça en vaut la peine que je risque ma peau pour rapporter ce genre d'image, tu vois? Par exemple, tu vois, sur une tranchée, que je passe une bonne journée ou une semaine, on verra très peu de différence en photo, à part si tu racontes vraiment le quotidien et les petites choses. Mais ça, tu peux potentiellement l'obtenir en une seule journée bien faite et si tu as des bonnes situations et par chance t'as ce genre de situation. Donc mais moi je me rends compte oui tu peux multiplier ce genre d'images mais c'est répétitif de passer du temps dans les tranchées, on fait le même genre d'images, on raconte le même genre d'histoire. Ça a de l'intérêt si tu le fais en vidéo, en radio ou ce genre de médium, mais pas en photo. Donc je pèse aussi ce que je peux rapporter en termes d'image et en termes de force d'image, tu vois. Donc parfois j'ai une bonne journée où oui, j'ai passé 10 jours à faire des évacuations et des évacuations de blessés, de morts. Bah, ça suffit, en fait, tu vois. Sur les 10 jours, j'ai vraiment dû travailler en réalité en temps compté, peut-être moins d'1 heure, tu vois. Parce que les évacuations, elles durent 15 minutes ou 10 minutes, où les photos de morts que j'ai faites, elles ont duré 3 minutes, top chrono. Ils arrivent, ils déposent le corps, ils l'identifient, ils l'évacuent par une ambulance et interdiction de photographier dans la morgue. Voilà. Fin de journée. T'as passé une journée ou 8 heures à attendre ça. Et tout se passe en 3 minutes. On te dit après non, parce que t'as plus d'accès. Bah, il est temps de rentrer. Donc, ça en valait la peine que je passe du temps à Chassis Vière, même s'il y avait des incoming et des upcoming, des départs et des arrivées de mortiers. J'ai eu ces images-là, mais ça en valait la peine parce que c'est exactement ce que je voulais raconter. Et des fois, 5 minutes suffisent, des fois, vous passez plus de temps. Mais je pèse beaucoup sur ce que je vais rapporter. Donc, là, j'ai fait 6 semaines. De reportage, et j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup plus que c'était. Moi, je trouve que c'était extrêmement productif ce que j'ai fait. Et j'avais pas besoin de plus cette fois-ci. Donc, je suis rentré et j'étais satisfait de ce que j'ai fait en termes de reportage. Parce que c'est très difficile, même de composer avec les forces armées. Donc, plus le temps avance et plus je me dis, je passe du temps, j'ai juste envie de passer du temps qui soit efficace. J'ai pas envie de passer du temps à attendre pour rien. ou attendre pour que ça en vaille la peine. Ça, je préfère le faire. Et je m'économise beaucoup de temps en faisant comme ça. Donc, ça rend cynique. J'ai pas envie de passer trop de temps à faire des choses comme par exemple une histoire sur des drones, sur des dronistes. Pour moi, en photo, ça a presque aucun intérêt. C'est un sujet qu'il faut faire en vidéo ou en texte. Ça passe très bien. Mais en photo, je vais faire des mecs dans une tranchée, faire voler des drones et que sur la ligne zéro ou à 2 km du front, on va pas le sentir, en fait. On le verra pas en image. Et plus le temps passe et plus on me répète que oui, en fait, on doit raconter des histoires photo. Et en fait, toutes les histoires ne peuvent pas être racontées en photo et il faut choisir. Et c'est très moche, mais il faut choisir. La photographie ne correspond pas à tous les médiums. Et par exemple, l'exercice du portrait que je trouve difficile, mais que moi je déteste le portrait parce que demain je montre un portrait ou une série de portraits. S'il n'y a pas de contexte ou un élément de texte, on ne va pas comprendre. Et je préfère raconter cette histoire en reportage, avoir cette personne dans son quotidien, plutôt qu'elle me raconte un texte. Parce que ça, c'est un sujet papier pour Le Monde, pour un magazine. Peut-être en long format ou un truc de 8 000 signes, mais ça raconterait en photo. Ça ne me dira pas que c'est dur. Il y aurait du verbatim parce que le portrait, c'est lui, c'est un verbatim. Ça, il faut en savoir en faire du portrait, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime faire. Parce que ce n'est pas assez narratif pour moi, photo. Donc voilà.
Intéressant. Tu parlais du fait que il faut lutter un peu contre son ego et que beaucoup de choses, enfin de toute façon quand tu réfléchis bien, essentiellement tout ce qui t'arrive dépend de comment toi tu perçois les choses, hein, sans tomber dans la philosophie de comptoir, mais il y a quand même une question qu'on se pose quand on est dans ce genre de territoire et quand on voit comment ça se passe autour de nous, c'est quand on voit le faible intérêt de la part des rédactions pour des reportages photos. Parce que comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à expliquer en photo. Et quand tu es indépendant, c'est encore plus compliqué, parce que les rédacs n'ont pas envie de prendre le risque de t'envoyer, parce que ça coûte cher et ça coûte du... ils prennent des risques aussi, mine de rien, de perdre quelqu'un. Comment... Est-ce que toi, tu t'es pas dit à un moment donné, ça vaut pas le coup d'y aller parce que... Je vendrai rien, ou parce que tu vois, il n'y a pas d'intérêt économique là-dedans.
Je pense que alors, avec ce que j'ai beaucoup appris à l'agence, c'est d'ouvrir des perspectives et ne pas concentrer que sur le marché de la presse. Que des photos que même si elles se vendent pas aujourd'hui, elles peuvent trouver des clients plus tard. Et c'est pour ça que toi cette fois-ci, on m'a aussi dit bon, si tu vends pas tes images, pense aussi à faire des images conçues pour les archives. Donc en fait, qui illustrent des situations global et qui peuvent être traduits en images. Par exemple, si dans 20 ans on raconte la guerre d'Ukraine dans un musée, ils auront besoin d'images bah, de front et quelque chose de très particulier. Donc, j'ai appris aussi à faire des images en disant que bon, ça c'est pas fait pour ce genre de clientèle pour la presse, mais ça se racontera plus tard en exposition, dans un livre ou une autre forme pour d'autres formes de clients. Et ça vaut la peine d'y aller, même si il n'y a pas forcément d'argent à la clé, comme pour moi. Parce qu'après, je m'y retrouve économiquement parce que j'arrive à réinvestir de l'argent dans des projets. Mais ça rapportera quelque chose plus tard. Par exemple, avant tout ce que j'ai fait avant Magnum, j'ai fait bah, l'Irak, enfin tout ce que j'ai montré pour rentrer à l'agence, c'est des territoires que j'ai continué à couvrir maintenant. En fait, j'ai fait zéro nouveau terrain. Depuis que je suis rentré à Magnum, j'ai juste continué à aller sur des terrains que je connaissais et des situations géopolitiques que je connaissais. L'Ukraine, j'y allais déjà. L'Irak, la Syrie, la France, des territoires que je faisais déjà même avant Magnum. Et aujourd'hui, c'est juste que l'Irak et la Syrie où je mettais beaucoup d'argent, y allait beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je sors plus un rond pour y aller. On me paye pour y aller. Et ça, pour moi, c'est un retour sur investissement. Tu vois? Par exemple, toi, comme je disais tout à l'heure, en juillet, je pars pour le New York Times en Irak, tu vois, pour faire un sujet sur la culture en Irak. Et c'est un truc qui était inespéré. Il y a 4-5 ans, je n'aurais jamais imaginé d'avoir ce type de clientèle. Ça rapporte à un moment donné. Y aller aujourd'hui, construire un portfolio qui démontre sa vision de photographe à notre échelle et pas faire une démonstration de tout ce qu'on peut faire dans le pays, c'est peut-être mieux. Comme par exemple, je ne sais pas, si on est passionné par le paysage et qu'on construit un portfolio très fort sur ce truc-là, peut-être qu'un jour, le National Geographic va nous appeler parce qu'ils veulent faire un sujet sur la culture en Ukraine et ce qu'il en reste, tu vois, de la culture soviétique. Ils vont appeler un photographe qui a fait que du paysage. C'est un exemple pas très concret, mais en tout cas, je pense qu'en tant qu'indépendant, c'est important d'y aller pour démontrer sa vision et ce qu'on veut faire et quelle est notre vision sur un conflit et pas vraiment sur ce qu'on est capable de faire. Il faut lutter contre son ego. Est-ce que sa vision de la guerre, c'est de montrer que du front? Peut-être c'est ça, et dans ce cas-là, pour faire ça. Et peut-être que quelqu'un va se dire, OK, ben moi, je vais revisiter l'histoire et la culture en Ukraine, et je vais faire que ça. Et sera peut-être plus intelligent de faire comme ça. Et tu vois, le portfolio que moi, j'ai montré pour l'Irak et la Syrie pour le monde, c'était plus sur de la scène de vie, de la culture et des portraits, que vraiment de l'actualité où des gens couraient et ça tirait partout. Parce que c'était très rare, en fait, à l'époque où j'y vais, ou même avant, c'est beaucoup plus rare. Donc, ils savent que je suis capable de faire des photos même dans des situations où c'est plus calme, où c'est peut-être plus difficile et moins évident de chercher des images. Et sais pas si ça répond à ta question.
Est-ce que tu parles du portfolio, super intéressant, parce que c'est un truc qui revient pas forcément beaucoup dans toutes les interviews que j'ai fait avec plein de pros. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du portfolio et de son importance, parce qu'on se dit, bah, c'est bon avec Instagram, on va pas faire des portfolios, enfin, tout ce qu'il faut de ça. Mais le portfolio, ça reste un élément central d'une stratégie plus globale de personal branding. Tu te rappelles, dans le collectif DR, j'aimais bien faire des petits cours sur le marketing, ce genre de trucs. Et il y a plein de gens qui sont pas réceptifs au côté marketing de la photo et au fait de se vendre et tout, mais toi, je me rappelle, t'étais quand même assez, enfin, t'étais quand même assez réceptif à ça et tu vois que c'est un truc qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des trucs, d'autres éléments de personal branding que toi, t'as mis en place qui t'ont permis de rentrer chez Magnum, qui t'ont permis de vendre au National Geo, qui t'ont permis, tu vois, de partir en commande, donner une crédibilité aussi à ton travail?
Moi, enfin, ça, je l'ai beaucoup éprouvé, ne serait-ce que la manière dont on se présente et ce qui nous intéresse. Par exemple, les gens à qui on se présente, les iconographes, ils sont en réalité, même s'ils ils prennent 15 minutes pour qu'on se voit, en réalité, ils n'ont pas le temps et le fond parce qu'ils sont curieux. Mais quand moi j'y allais, j'avais presque un elevator pitch sur ma propre bio en disant qui j'étais, qui j'ai quel âge et qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je fais. Donc, tout de suite, je leur donne des verbatims et je joue sur le biais cognitif en disant, OK, moi, c'est ça et ça qui m'intéresse et je travaille là, là et là. Et tout de suite, en fait, ils identifient mes spécialisations. Tu vois, quand je dis, bon, bah, je suis un photographe d'origine franco-cambodgienne, parce qu'on me demande, aujourd'hui, c'est de plus en plus courant qu'on me demande d'où je viens, pas parce que pour savoir, en fait, ce qui m'a amené là, j'ai dit que je suis franco-cambodgien, que j'ai 26 ans et que ce qui m'intéresse, c'est la migration, les luttes intercommunautaires. Et dedans, sous-jacent, ça veut dire, il y a plein de, c'est très large, mais ils identifient tout de suite ce qui m'intéresse. Même, tu vois, quand je vais en Ukraine, bah, j'ai couvert la crise migratoire en Pologne. Donc, tout de suite, ça, ils l'ont identifié. Et dans mon portfolio, tout ce que j'ai dit rentre, en fait, dans ce spectre-là. Tu vois que, bon, en fait, je suis beaucoup intéressé par énormément de guerres civiles parce que c'est inhérent à des luttes intercommunautaires. Les guerres sont des processus historiques. Donc, forcément, c'est un peu une thématique où c'est un peu un fourre-tout. Mais des luttes intercommunautaires, ça peut se retrouver en France aussi quand je couvre l'extrême droite ou des élections présidentielles ou la banlieue, tu vois, qui est un thème profond en France sur les luttes intercommunautaires. Et tout de suite, ils identifient tout ça. Ils disent, OK, lui, c'est ça qui l'intéresse. C'est tout ce qui va, ces photos vont avoir beaucoup de tensions, entre guillemets. Il y aura beaucoup de confrontations, entre guillemets, même si ça va être juste des regards ou même par des territoires qui sont bercés par ça. Et ça, beaucoup, j'ai beaucoup construit mon discours sur ça. Et surtout aussi, un truc que j'ai pas fait avant et que j'ai appris à faire aussi, c'est résumer mon travail en une vingtaine, trentaine de portfolios. Et ça aussi, les iconographes, même du New York Times, ils aiment bien aller sur des sites de photographes, ils regardent le portfolio global sur, OK, c'est quoi une sélection de photos d'un portfolio global? Qu'est-ce qu'il traite? C'est quoi son type d'image? Et ensuite, tu vas regarder les projets photos un par un. Parce qu'en fait, si jamais tu regardes forcément tous les travaux des photographes, il y a forcément des patterns qui se créent, même si tu as différents projets. Il y a forcément des photos de paysages que t'aimes parce que tu fais ça, ou des photos de symbolique parce que tu aimes beaucoup ce qui va porter au symbolique, aux choses historiques, où tu aimes beaucoup le portrait, où tu aimes beaucoup le reportage, il y a du mouvement, beaucoup de genres de choses. Il y a forcément des patterns qui se créent, surtout les photographes qui entreprennent des très grands projets. Et peut-être que c'est l'homme qui intéresse, tu vois, dans son contexte, et je sais pas, tu vois. Mais je pense que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait ici parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder mon travail jusqu'à le détester. On me disait, il faut que tu regardes ton travail jusqu'à décerner des patterns, des trucs. Là, tu vois, par exemple, je suis en train de faire mon portfolio pour passer de changer de statut à Magnum. Et ce que j'ai beaucoup retrouvé dans mon travail, c'est beaucoup de photos de gens qui ont des regards perdus. Tu vois. Donc, en fait, ça dit quelque chose sur mon travail. Et je cherche beaucoup ces images-là, mais de façon très inconsciente, tu vois. Et j'ai beaucoup de photos de contexte, qui est ce que j'adore raconter, dans quoi évoluent mes protagonistes. Donc, ça dit quelque chose sur ma manière de photographier, même si c'est en construction. Ça dit quelque chose sur mon travail et sur les types d'images que je cherche et que je cherche à représenter des gens, tu vois. Et ben voilà, ça c'est ce que j'ai décelé dans mon travail. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus regarder son travail et décerner des choses au-delà des cadrages et ce genre de choses. Plus on regarde son travail et plus on décerne des patterns, des choses qui se disent dans notre travail. Peut-être que c'est la thématique de la santé qui se dégage, et même si on travaille sur plein de trucs, même si ça va être les femmes, les enfants, la jeunesse, les personnes d'une certaine communauté. Est-ce que c'est les noirs, tu vois? Tu vois, en éditant mon travail sur Laborieux, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait beaucoup de personnes noires dans mon travail. Puisqu'en fait, j'ai juste plein de mes potes qui ont grandi dans ce truc-là, beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, de personnes noires. Et j'ai grandi, en fait, avec plus de gens asiatiques, alors que je suis asiatique, tu vois. Et ça dit quelque chose, en fait, sur mon entourage, tu vois, et sur moi. Et c'est intéressant. Mais c'est des patterns qu'il faut déceler. Et qu'il faut se rendre compte, en fait, des points forts ou des thématiques qu'on dégage à travers le travail. Parfois, c'est juste inconscient parce qu'on n'a pas assez intellectualisé la chose, on n'a pas assez regardé son travail pour dégager ces trucs-là. Donc, le portfolio, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ce qui va rester dans notre travail à long terme. Même quand on sera vieux, quand on sera à nos archives, les gens diront, oui, c'est ça qui dégage. Et moi, quand je regarde le travail des photographes ici, à Magnum, c'est là où je vois leur force, en fait. Ils savent éditer leur travail, ils savent dégager des thématiques par lesquels ils sont obsédés, parce qu'au final, c'est la photographie, c'est qu'une question d'obsession. Et tu vois, par exemple, dernièrement, Alex Webb, c'est le parfait exemple. Aujourd'hui, tu en retiens d'un gars qui a fait beaucoup de photographies de rue, mais beaucoup de gens oublient qu'il a commencé sa carrière en tant que vraiment photojournaliste, qu'il a travaillé sur les trains des migrants, des sujets qui sont très d'actualité. Il a travaillé sur les migrants, il a fait des traversées du Mexique, États-Unis, le Rio Grande, il a traversé maintes et maintes fois, tout ce qui est thématique sur les cartels, il les a faites. Tout ça. Et petit à petit, il a dégagé ce que lui, il aimait dans la photographie. C'est les photos d'atmosphère, du coup, ils sont complexes, mais c'est parce qu'il a éprouvé, il a regardé son travail maintes et maintes fois. C'est comme, tu vois, Jérôme Cecchini, c'est mon mentor. Petit à petit, avec le temps, quand tu regardes ses choix d'image et sa vision et ce qu'il aime, c'est pour ses choix, c'est ce qu'il va représenter, c'est sa vision. Tu vois qu'il met de moins en moins de photographies d'actualité, des photos où il y a beaucoup de mouvements, de photos de cadavres. Et met beaucoup de photos de contexte parce que lui, il croit beaucoup au fatalisme, tu vois, et au déterminisme par les endroits dans lesquels les gens grandissent. Donc, il met beaucoup de photos comme ça et on a envie de dire, je vous montre ces photos et devine presque le destin des gens juste en regardant où ils ont grandi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut beaucoup travailler aussi sur portfolio, sur ces raisons-là, sur les thématiques sous-jacentes et avec le temps aussi. Ce qui rapporte de l'argent, c'est nos propres archives. Et je le vois aussi, il y a beaucoup de photographes indépendants qui vieillissent. Un jour, ils se disent, ah, mais ce qui me fait ma force, c'est mes archives. Et en fait, ils n'ont pas du tout édité leurs archives et se retrouvent à passer des heures et des années entières à éditer leur propre travail parce qu'ils ont mal rangé ce qu'ils ont, tu vois. J'ai rencontré Yann Morvan aussi, qui est en train de rééditer toutes ses archives. Même, je pense que Patrick Chauvel, que tu connais, il réédite toutes ses archives, il ressort tout. Il y a des assistants qui scannent tout. Parce qu'il a peut-être pas fait tous ces exercices au fur et à mesure, tu vois. Et voilà. Mais le portfolio a une valeur. Les gens le regardent beaucoup. Et même la carte de visite, même quand les photographes se présentent à l'agence ici, quand ils veulent rentrer, ils disent, t'as un portfolio. Et ils sont jugés sur la capacité d'éditer, montrer en 40, 60 photos tout leur travail et toute leur vision, ce qui est très peu, en fait, tu vois. 40, 60 photos, voire même moins 30. Et voilà quoi, tu vois. C'est même le cas cette année, je représente mon portfolio sur tout ce que j'ai fait en 2 ans. Je présente là pour l'instant, je suis à moins de 50 photos, tu vois. Et finalement, c'est pas beaucoup. C'est 20 photos en Ukraine, 20 photos sur 93. Et le reste, c'est fait en commande, ce qui est pas tellement. Et ils vont juger cette capacité aussi à savoir montrer en très peu d'images notre vision. Et le portfolio, oui, c'est important de tout le temps en faire un sur n'importe quel projet, parce qu'il y a autant de portfolios que de publics différents.
Ouais, c'est clair que l'editing, c'est le truc le plus important, le plus dur. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant la façon dont on parle, parce que c'est vrai que c'est un truc, le fait d'intellectualiser et on est limite, à la limite de la psychanalyse, hein, quand tu dis tu observes tes propres photos, tu cherches les patterns et tout, c'est vachement intéressant. C'est un truc qu'on va pas forcément faire de façon consciente et conscientisée et active. C'est un truc que t'as appris chez Magnum, ça, ou c'est un truc que t'as découvert ça en discutant avec des gens?
Ça, je l'ai fait même avant de rentrer à l'agence, parce qu'en discutant, en regardant beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup appris en livre photo. J'ai acheté ce que j'ai de plus cher, je pense, c'est ma bibliothèque. Et j'achète des photos de tous les bords, des livres historiques qui ont marqué l'histoire de la photographie. Pourquoi ont-ils marqué l'histoire de la photographie? Jusqu'à des petits livres plus petits, plus gros. Et c'est là où moi, par exemple, je commence à savoir déceler les visions des photographes et leur intention. Et même moi, par exemple, quand je regarde assez mes propres photos, des fois je me dis, je sais ce qui me manque et c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Tu vois, par exemple, en Ukraine, la première fois que j'y suis allé, au début de l'invasion, j'ai beaucoup fait les civils, les fuites, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai beaucoup travaillé à Odessa, où j'ai travaillé sur la ville elle-même, sur l'architecture du brutalisme, enfin, tous ces trucs-là. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me manque dans mon portfolio sur l'Ukraine la prochaine fois? Je me suis dit, il me manque du front. Il me manque. Du paysage détruit, il me manque un peu tout ça. Et il me faut du front, il me faut des photos de boum boum, comme on appelle ça, du front, des morts, des évacuations, des photos qui sont rangées dans la case beaucoup plus classique du journaliste. Mais il m'en manque en fait de ces photos plus classiques parce que je me suis fait chier à aller chercher des photos, des symboliques, des trucs plus complexes, plus intellectuels. Là, il me faut en fait du béaba, du photojournaliste et de la photographie de conflit. Il me faut vraiment des trucs plus directs parce que sinon, mon travail est trop subtil et trop de subtilité dilue un message qui est fort et on raconte quand même un conflit qui est meurtrier. Et en fait, j'avais pas envie de le faire dans la dentelle. C'est un peu ça la réflexion que j'ai eue. Ou même sur la Syrie, tu vois. Mon projet, quand j'y suis allé les premières fois, je sentais qu'il manquait beaucoup, qu'il manquait cette échelle de grandeur de conflit. C'est ça aussi où des fois, je suis. Vous avez envie d'insuffler un souffle épique à mes projets. Et c'est ce qu'on a envie de faire tous, tu vois. Surtout quand tu racontes une histoire aussi grande. Donc, je me suis dit, il fallait que je raconte ça par du paysage. Je raconte ça par du paysage, qu'on comprenne qu'il y a des destructions de vie et qu'en fait, ça peut se raconter uniquement quand on fait des photos de très grande échelle, quand on met de la distance, qu'on raconte des choses différentes. Donc, j'ai beaucoup psychanalysé mon propre travail pour me dire qu'est-ce qui me manque. Et même sur les travaux que j'ai actuellement, tu vois, sur le 93, j'ai fait beaucoup de photos très dures, mais il me manque en fait cette ambivalence qu'on comprend en fait que c'est un lieu plein de paradoxes. Donc, en contrebalançant, j'ai fait des photographies plus calmes, entre guillemets, et j'ai photographié mes propres potes, tu vois, avec qui on faisait des barbecues, des trucs, et qui vont en fait amener ces subtilités que moi je cherche dans ce projet-là, tu vois. Donc, ouais, il faut regarder son travail, regarder ses points faibles, qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui manque. Pour dire exactement ce qu'on a envie de dire sur un sujet. Et parfois, c'est pas grand-chose, c'est juste aller marcher, faire plus de photos de contexte, avoir peut-être plus de. Peut-être on veut raconter une histoire par des objets, ça on peut le faire, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est ça aussi qui dicte les visions de photographe, je pense. C'est psychanalyser son travail et y aller en disant qu'est-ce qui me manque la prochaine fois si je devais le raconter ce travail-là sous une autre forme, quoi.
Ça, c'est un truc qui est c'est super intéressant, hein, mais comme tous les trucs intellectualisés, on a tendance vite à se dire, tu le sais, on a déjà discuté plein de fois de ça, mais le côté pragmatique de la chose et de se dire, ok, c'est cool, mais est-ce que concrètement l'acheteur d'image de l'autre côté il va être sensible à ça? Est-ce que toi, maintenant que tu as accès à une diffusion plus large et peut-être une vision du monde de la photo beaucoup plus large et beaucoup plus complète, tu sens que les iconos, que les rédacteurs chefs, que les gens qui donnent les bourses, les jurys, etc., sont sensibles à ça, surtout dans un monde où je te rajoute une petite question un peu facile. Enfin, c'est une blague, c'est pas du tout facile, mais sur tout ce qui arrive avec tout ce qui nous arrive un petit peu dans la tête avec l'IA, avec le fait que il y a aussi
concrètement beaucoup moins d'argent disponible pour l'achat d'images de façon très globale. C'est quoi la vision que tu as de tout ça?
Déjà, l'IA, c'est une grosse question, puisque nous aussi, on se pose la question. Je pense que ce qui est, moi, j'ai toujours tendance à penser que même si on souhaite combattre le changement, ce sera un combat perdu d'avance. Donc, il faut l'accepter que l'IA va changer les choses et changer les choses dans notre propre métier. La question de savoir, c'est où est notre différence, tu vois. C'est quand même à une époque où, là, aujourd'hui, tu vois, on peut se poser la question, a-t-on toujours notre place en tant que photographe étranger? Parce qu'il y a énormément de photographes ukrainiens, tu vois. Ma réponse est oui, tu vois. Où est notre plus-value? Elle sera différente. Moi, j'ai la réponse à ça, tu vois. Je pense que notre boulot, quand t'es pas le premier à raconter les choses, c'est de mieux raconter les choses. Donc, passer du temps différemment, le raconter différemment, réfléchir différemment parce qu'on est étranger, et de raconter pour un certain public aussi. Je pense que l'IA, il faut le confronter en disant, OK, ça raconte des situations qui sont fausses et qui en fait illustrent un fantasme de la réalité. Tu vois, là où tu opposes la photographie en disant que c'est l'interprétation propre de la réalité, mais ça reste la réalité, tu vois. Et c'est pas une image qui est générée. Et les gens qui génèrent ces images, qui sont-ils? Pourquoi ont-ils fait ça? Et Magnum, on essaie de se positionner aussi, tu vois, sur où est la différence entre ça et nous. Et nous, on cherche des réponses et on commence à trouver on trouve des bribes de réponses et ça reste intéressant, tu vois. Les gens défendront toujours cette question de réalité ou l'interprétation de la réalité et qu'en fait, l'IA sera toujours des copies de ces gens ou d'un certain style. Ils copient toute la forme et pas le fond et que c'est là où, en fait, nous, on fera la différence. Après, tu avais une deuxième question et j'ai oublié c'était quoi?
C'était un peu la première, et dans le sens où, mais c'est vrai que c'était un peu complexe d'aligner les deux en même temps. C'est plus sur la logique de modèle économique, dans le sens où, tu vois, Magnum, c'est clairement on va pas refaire l'historique de Magnum, mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode avec quelqu'un de Magnum, ça pourrait être intéressant, sur le fait que ça a été les heures les plus belles de la photographie de presse, et surtout les heures les plus rentables, en quelque part, parce que c'est l'époque où c'était le fournisseur, c'était le carburant. Indispensable de support de presse, quoi. S'il n'y avait pas les photographes, il n'y avait pas les photos, tu n'avais pas les news magazines, tu n'avais pas les Newsweek, tu n'avais pas les lives, etc. Donc tu n'avais pas d'informations. Aujourd'hui, où tu n'as plus besoin de ce carburant parce que ça devient un carburant plus cher, plus élitiste et pas nécessaire, en fait, quelque part, c'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Comment vous percevez tout ça chez vous?
Nous, on essaye de s'en sortir en multipliant les canaux de diffusion. Aujourd'hui, par exemple, on a énormément de followers sur Instagram, on a 4 millions de personnes, ce qui est plus que certains médias. Si jamais on était un musée, on serait peut-être dans le top 3 des musées les plus suivis au monde. Donc, on a une identité qui est très, très bizarre et très étrange. On a un historique assez dingue depuis les années 30. On a des photographes qui ont leur approche très particulière de la photographie et qui font quand même dans le fond du documentaire, mais qui après, visuellement, ils ont des approches où on est sensible ou pas. Nous, on essaie de multiplier les canaux de diffusion et trouver des moyens de diffusion multiples. Et surtout aussi, on ne se ferme pas à des marchés comme le corporate qui permettent de financer des projets personnels. Et tu vois, j'en parlais, mais le marché du livre, de l'exposition, on amène des sujets qui sont très durs sur d'autres publics, tu vois, qui peuvent avoir un intérêt, qui ont de l'argent, qui peuvent financer ce genre de choses. Donc, on essaie de multiplier des canaux, trouver d'autres moyens de diffusion, pas que la presse. Même là, tu vois, on essaie de prévoir la fin du papier. Donc, on essaye aussi de se dire, OK, comment on fait? On reste à faire des images, mais on prévoit la fin du magazine papier, qui c'est une œuvre de noblesse, mais qui, de façon générale, le papier se vend moins. Donc, c'est un peu tout ça, tu vois. On essaie de se dire, OK, si jamais on vend des zines ou en forme de zine, est-ce que ça marcherait? On essaie de réfléchir aussi comment transformer notre site web en vrai site d'information. Et après, il y a des fonds de commerce qui ne bougent jamais. Tu vois, la vente d'archives à l'agence, elle est tellement énorme, notre stock d'images, qu'on arrive à quand même faire de l'argent dessus. On vit de commandes, presse, corpo, ce genre de trucs. Et voilà quoi. Même à un moment donné, on a eu des projets que des NFT, tu vois, où ça a vachement bien fonctionné. Bon, moi, j'ai pas eu de ça. J'ai pas profité puisque j'ai pas été, j'avais deux moyens de financement, mais certains photographes qui ont travaillé en Ukraine ont travaillé parce qu'ils vendaient des NFT, tu vois. Donc, on trouve des moyens, des financements différents, on teste. Après, on essaie de trouver des moyens viables à long terme, mais on teste en permanence. On a des gens qui font chauffer leur cerveau avec le staff pour trouver des moyens de financement qui sont différents. Ils disent, bon, avec ça, by the way, on peut trouver des trucs pour que tu ailles en Ukraine, tu vois, ou peut-être vendre certaines images ou faire ça différemment. Et ouais, on multiplie les sources de revenus, donc il n'y a pas que, il n'y a pas que la presse. Et voilà. Donc nous, on s'adapte, on essaie de s'adapter, on essaie d'embrasser le changement plutôt que dire que ça ne marchera pas et ce genre de choses. C'est pour ça que l'agence a digitalisé des archives dès les années 90, parce qu'ils ont prévu que la digitalisation, en tout cas, ils ont parié que la digitalisation allait changer le monde, et ils ont eu raison de faire ce pari. C'est grâce à ça que l'agence vit encore. Mais aujourd'hui, on essaie de s'adapter en disant que l'IA, c'est quelque chose qui menace le travail, mais il faut s'adapter plutôt que de dire que ça ne marchera pas, parce que ça va marcher, ça va changer profondément notre travail. Et c'est là où on va essayer de renforcer le discours qu'on a avec tout l'historique qu'on a, mais on essaie de s'adapter. Et on le fait avec les moyens qu'on a, mais c'est un peu ça. On essaie de devenir de plus en plus indépendant. Peut-être qu'un jour que Magnum sera comme n'importe quel média, tu vois, qu'on aura des rentrées d'argent, qu'on produira juste des reportages à longue forme comme Newsweek, tu vois, qu'en fait, on ne produit pas d'actualité au jour le jour, mais qu'une fois tous les 2 semaines ou une fois tous les mois, il y a quelqu'un qui sort une histoire ou on réédite une histoire depuis les années 30 et ce sera intéressant. Tu vois, par exemple, quand il y a eu les attentats du 15 novembre, du 13 novembre, ce qu'a fait l'agence, c'est de sortir un livre qui réexpliquait toute l'histoire et les fondements de l'islamisme radical et tous les territoires qui étaient connectés à la Syrie et à l'Irak. Et en fait, on a trouvé des archives depuis les années 20, depuis quand même la Syrie était sous mandat français, il y avait des photos de ça qui existaient à l'agence, jusqu'à la révolution iranienne, tu vois, de 79 avec Khomeini, jusqu'à même l'époque du GIA en Algérie, des sujets qui étaient même aujourd'hui, je pense qu'ils sont très peu connus. Il y avait des ministres qui chassaient le GIA en Algérie avec la décennie noire, tu vois, jusqu'à en septembre, jusqu'à l'invasion irakienne, jusqu'à le retrait américain d'Irak, jusqu'à la chute de Mossoul. Toutes ces images étaient présentes et ça nous permet de raconter des histoires qui sont transverses et complètement différentes. Là, on prépare un énorme livre sur les États-Unis, tu vois, sur l'histoire des États-Unis. Et ça va parler même de l'époque d'occupation de la Syrie récente, tu vois, de l'implication américaine en Syrie, de l'occupation en Irak, de l'occupation en Afghanistan, de la guerre du Koweït, jusqu'à les élections américaines, de Joe Biden, de machin, de l'époque de Bush, du 11 septembre, de l'histoire du Watergate, de la guerre froide, du mur de Berlin, tout ça en fait, tu vois, compilé dans un livre avec uniquement les archives de l'agence. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on ne sera plus les premiers, mais on essaie de raconter mieux et de façon historique tout ça. Et je pense que c'est intéressant de le faire de cette manière-là, de qu'on essaie de trouver cette place-là.
Ouais, c'est en fait, c'est quand tu es entrepreneur, c'est comprendre que quand tu peux pas être le meilleur, le moins cher ou le premier, comme tu viens de dire, tu deviens celui qui apporte le plus de valeur d'une façon différente.
Exactement.
Mais ce que rechercheront les gens, effectivement, juste le simple fait de dire ça, moi j'ai envie de l'acheter ton bouquin sur les États-Unis.
Moi,
Et c'est
ouais, c'est un peu ça.
non, c'est vachement
Tu
bien.
vois, par exemple, quand je suis rentré à l'agence, le portfolio sur lequel moi j'ai tout bâti, et puis on en a discuté même avec Paolo Jérôme, c'est que je suis un photographe, je suis un photojournaliste, mais généraliste. Ça veut dire que mes commandes, elles n'ont aucun sens si tu les suis. Ça va de couvrir les élections jusqu'à Fan Fashion Week, jusqu'à concert de Beyoncé à Stockholm, jusqu'à des lignes de front en Ukraine, jusqu'à photographier les spectateurs de foot en 93, jusqu'à faire la bac, travailler en prison. En fait, je suis juste photojournaliste. Et c'est un profil que moi j'ai à l'agence, que je revendique, que je sais tout faire. Et c'est pour ça que quand on a une commande un peu bizarre, on me dit, bon, écoute, tu pourrais le faire, mais ça peut être le truc le plus sexy pour ton portfolio, mais c'est un peu de thune. Et moi, je dis jamais non, parce que je me sens capable de le faire, même si c'est un portrait présidentiel ou photographier le passage du fondateur de ChatGPT avec tous les patrons du CAC 40, je le fais. Tu vois, je le fais parce que moi, je suis photojournaliste, je sais tout faire, à peu près tout bien. J'ai quelques sujets de prédilection, j'ai des projets personnels que je fais, mais c'est ça mon profil, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui sont ultra spécialistes à l'agence, qui font que les migrants, que les femmes, que le Liban, que les fantaisies sexuelles, que que par exemple le changement climatique en Tunisie. Si, il y a des très gros spécialistes et moi je suis peut-être l'un des nouveaux généralistes, enfin l'un des derniers nouveaux généralistes à rentrer à l'agence.
Alors, en plus,
Donc
enfin,
voilà.
quand tu t'intéresses en plus aux historiques des agences, tu vois, je pense à Sigma, à Gamma. Mine de rien, les fondateurs de ces agences, c'est des gens qui étaient capables de faire ça. Tu vois, même Chauvel, on parlait de Chauvel, oui, il est spécialiste de la guerre et tout, mais dans sa vie, il a fait plein d'autres trucs. Quand tu commences à discuter un peu avec lui, il te parle des photos people qu'il faisait dans les soirées parisiennes, des trucs comme ça. Ou quand tu lis les bouquins d'Hubert Henrot, qui a fondé Gamma et Sigma, il te raconte toutes ces histoires des Gilles Caron, tous ces gens qui étaient, ils sont restés dans l'histoire comme étant spécialisés dans quelque chose, mais ils ont quand même fait des trucs complètement barrés et des trucs qui rapportaient un peu d'argent. Et ouais, même Éric Bouvet en parlait sur ce podcast. Il disait que voilà, ça lui arrivait de rentrer d'Irak et puis le lendemain il partait sur un événement avec des ministres à Paris et puis le lendemain il était sur une Fashion Week et ensuite le lendemain sur un autre truc. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui te construit le fait d'être, et même plus profondément en termes de caractère, parce que tu es quand même quelqu'un qui, quand on commence à te connaître un petit peu, tu es à la fois très humble, on voit que tu es ouvert d'esprit, que c'est vachement intéressant de parler avec toi parce que tu vas pas être un fondamentaliste, tu vois, sur un truc, quoi, tu vas essayer de comprendre ce que fait un journaliste au final. Ça construit ton caractère, tout ça, non? Ta personnalité?
Je pense que oui. Je pense que depuis que je fais vraiment, ouais, on va dire vraiment tout et n'importe quoi, enfin, beaucoup de choses, ça m'ouvre l'esprit beaucoup plus qu'avant. Avant, j'aimais bien le truc de spécialiste et faire que quelque chose. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, si on est bon sur un créneau, malgré nous et qu'on ne veuille pas, il faut être intelligent et savoir dire oui. Et parce que c'est du boulot. Ah, là, c'est pas, j'ai pas le, je peux pas faire des caprices en disant non, je passe cette commande. Parce que je peux pas, en fait. J'ai besoin de bouffer. Et j'ai besoin, il faut que je dise oui à des trucs. Donc, et mon boulot, ouais, c'est même si ça ne ça restera pas dans mon portfolio, je le fais parce que je suis capable de le faire, tu vois. Et je le fais parce que je suis capable de le faire. Je pense que c'est la réponse que je pourrais donner. Bon, je fais du fonds en Ukraine parce que je peux le faire, parce que j'accepte ces risques. Ou je dis oui à un portrait en 2 minutes de Karl Lagerfeld, enfin, ou de n'importe qui, ou de dire, il faut que tu travailles sur quelqu'un qui est mort, mais il faut des images quand même. Et dire, bon, bah, je le fais, mais c'est chiant, mais je le fais, quoi. Et de toute façon, mon boulot, c'est de trouver des solutions. Je peux pas, si quelqu'un, faire des portraits de gens que t'as pas accès, si je pense que tout le monde a les mêmes faces, au même problème, même si tu es chez Magnum ou tu travailles pour le New York Mag, tu peux être confronté à des murs. Ton boulot, en fait, on t'embauche pour trouver des solutions autres, pour faire autrement. Le concert de Beyoncé, interdiction de ramener son boîtier. Et ben, j'ai shooté à l'iPhone en RAW, mais ils ont adoré, ils ont pas vu la différence. Donc, tu t'adaptes. Je leur ai dit, écoutez, ça a shooté à l'iPhone, on s'en fout du moment que les images sont bonnes. Et personne s'est posé la question. Donc, tu t'adaptes. En fait, il n'y a pas le choix. Je pense que je ne vais pas me plaindre parce que tout le monde compose avec les mêmes trucs. Tu vois, quand tu as des gens, même des jeunes photographes avec qui je discute ou des confrères qui me disent, ouais, mais c'est relou, c'est chiant. Je fais, mais tu crois, on fait comment, nous? Tu vois, tu crois qu'on a, on a, on a, on a, on a, on a passe-droit. Ça marche peut-être que pour le New York Times et pour CNN, tu vois. Mais nous, on est les autres, tu vois. On n'a pas de passe-droit, on trouve des solutions. Et c'est que ça, en fait, on compose qu'avec ça. Donc, ouais, ça forge du caractère où je suis moins fondamentaliste qu'avant. Avant, j'aimais bien dire, ouais, on fait que ça, je vis que de ça. Mais en fait, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être possible, tu vois. Et c'est juste que c'est ta manière de communiquer, si tu veux pas le dire, que tu as fait ça, c'est tant mieux pour toi. Et je pense qu'il faut être intelligent, tu vois. Il faut juste, des fois, accepter parce que c'est le boulot et te dire, oh, bah, je ne dis à personne que je l'ai fait, mais je l'ai fait, j'ai honte, mais je l'ai fait. Et les gens savent que tu l'as fait. Tant pis, c'est pas ce qu'on retiendra, tu vois. Et donc, ouais, c'est ça, c'est un peu. Au moins, c'est ce que je pense. Après, le plus important, c'est pareil, c'est le portfolio. Quand quelqu'un me dit, bon, vas-y, montre-moi ce que tu fais, montrer les bons projets, dire, ah, mais t'as pas fait une commande pour ça, je dis, ouais, mais j'aime pas. Mais je l'ai fait parce que ça payait. Et je pense que personne ne va nous en vouloir de dire ça, tu vois.
Ben, carrément pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça donne plus une bonne image de toi, être capable justement d'être humble et te dire, ben, je sais faire ça. C'est vachement bien hein, ce que tu dis, je l'ai fait parce que je peux le faire. Et puis, why not, quoi. De toute façon, c'est là où tu apprends. Et effectivement, quand tu es en école de journalisme, c'est le premier truc qu'on t'apprend à faire, c'est trouve pas des excuses et démerde-toi pour ramener ce qu'on te demande. Et quand tu es photographe indépendant, ce qu'on te demande, en tout cas ce que toi tu te demandes à toi-même, je pense que tu l'as expérimenté pendant longtemps, et tu continues de l'expérimenter, c'est ramène du fric. d'une façon ou d'une autre pour être capable de continuer à t'éclater, à partir, si tu en as envie, 60 jours dans un coin éclaté où tu as des bombardements sur la gueule tous les jours, mais au moins tu es capable de le faire parce que tu t'es donné les moyens, quoi.
Exactement. Et que même à l'agence, tu sais, on m'envoie sur une commande et je ramène pas d'image que j'ai fait ma diva en disant, et j'ai pas eu accès à Beyoncé. Je fais, ouais, mais comme tout le monde, en fait. Mais en fait, ils vont dire, mais si t'as pas d'image, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent, t'as un client. Donc, tu le mets dans la merde du patois, l'agence, tu vois. Donc, quand aussi, moi, j'ai, enfin, moi, je me sens une pression disant que quand j'accepte une commande de la part de l'agence, il faut que je la tabasse, en fait, cette commande. Il n'y a pas le choix, en fait, puisqu'on joue la réputation de la mienne. Et celle de l'agence. Et c'est un métier, en fait, où tout est bâti sur la réputation. Et même si tu trouves des solutions visuelles où les gens disent, bon, t'as été malin, c'est pas ce que j'espérais, mais ça marche très bien et bien joué. Et ben, en fait, on va t'appeler parce que t'es machin la débrouille, tu vois. Et c'est ce qu'ils attendent de toi, en fait. Tout le monde bricole dans ce travail. C'est jamais cadré, c'est jamais parfait. Tu te démerdes toujours pour avoir des images. Et c'est pour ça que les photographes français, même de façon générale, ils ont eu à une époque et même toujours, cette réputation de journaliste voyou qui trouvait et qui arrivait à faire des images malgré tout, c'est parce que tu sneaks, parce que tu fais des trucs interdits, parce que tu trouves des moyens, en fait, tu composes avec tous les problèmes sur place, tous les trucs, et tu rapportes des images, en fait. Tu vois, à la fin, je me suis plaint à l'agence en disant que c'était hyper loutre ici, en Ukraine, enfin, quand je travaillais en Ukraine, et personne ne se posait la question en disant, ah ouais, putain, t'as bien galéré, tu te dis, bon, t'as quand même eu plus d'images que la moyenne, c'est bien, tu vois. Et c'est ce qu'on attend de moi, en fait. C'est pour ça aussi que j'accepte de faire ce genre de trucs. Et puis, même toi, si tu retournes en Ukraine, tu acceptes tout le shitstorm que tu vas te confronter à, tous les refus, tous les machins, tous les trucs, toute l'attente que tu vas te taper, parce que tu es capable de le faire. Et tout le monde compose avec les mêmes problématiques. Personne n'a des vrais passe-droits. Et puis, même, je dis le New York Times, mais les mecs, ils ont toujours quelqu'un sur place et qui travaille leurs accès depuis un an, en fait. Tu vois? Qui paye des coûts depuis 40 jours à quelqu'un pour qu'il donne accès à Barmouth dans la ville et que voilà, genre le truc. Mais ouais, c'est ton travail, leur contact, et bien joué pour eux et tant pis pour nous et voilà.
C'est vachement intéressant. Et quand tu parles de réputation, je trouve ça encore plus intéressant parce que c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément. Mais enfin, personne n'aime les divas. Personne n'aime les gens qui se la pètent. Personne n'aime les gens qui disent non parce qu'ils considèrent qu'ils sont les meilleurs et tout. Et toi, tu pourrais très bien te dire, voilà, je suis chez Magnum. Tu vois, tu pourrais te la péter pour plein de trucs et tout. Mais je pense que tu as pigé aussi que c'est un jeu de long terme. Personne n'aime ça et la réputation dans ce métier, c'est tellement important. Enfin, même plus dans ce genre de terrain où tu te retrouves autour d'une bière très facilement avec d'autres collègues et ça te daube un peu et tu comprends très vite qu'il y a des gens qui sont grillés tout seuls en fait en n'étant pas capables de se respecter les autres en faisant des coups dans le dos ou en trahissant ce genre de truc. C'est un truc qu'on n'y pense pas forcément. Hein.
C'est important. Non, c'est vachement important la réputation parce que c'est ce qui va nous rester. Et puis les gens, puis même des fois, il y a des iconographes qui viennent me voir et ils n'ont pas vu mon travail, mais j'ai une réputation, je pense que j'ai bonne réputation, entre guillemets. Et juste, ils ont dit, bon, apparemment, ça va, t'es sympa et qu'on peut bosser, t'es capable de le faire. Donc on t'appelle, tu vois, et dit, ah, ben, c'est cool, merci beaucoup. Et puis après, ils découvrent, il y a un travail par derrière, ils se disent, bon, ok, ça fera largement le taf. Et de toute façon, de façon générale, et puis au-delà du journalisme, 70% des embauches se font sur du bouche à oreille. Si on parle bien de toi, les gens ont tendance à croire, tu vois. Et c'est important, en fait, tu vois. Ouais, la réputation, ça fait beaucoup. Et puis quand tu as bonne réputation, les gens connaissent tes images sans même les avoir vues une fois. Ils connaissent sans connaître, ils connaissent ta réputation en disant que tu es flexible, que tu sais te débrouiller, que tu as. Et ce genre de choses, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est très important de travailler dessus, la perception que les gens ont sur toi. Et puis même, c'est une image de marque, tu vois, quand même, ça peut, ça, c'est, même si on est un peu, même si on est un peu têtu, ce genre de truc, c'est important d'avoir quand même une bonne réputation et de se comporter de façon professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui étaient complètement blacklistés parce qu'ils se sont comportés comme des cons, tu vois. Et c'est complètement dommage parce qu'on dépend de ça, tu vois. Et j'en connais des photographes qui ont juste pété des plombs et qui ont joué leur diva. Mais en fait, dans un monde professionnel, on t'embauche parce que tu es capable de maîtriser tes émotions et de faire gaffe, en fait. Et même si tu penses au contraire, tu es censé pouvoir faire le taf Et juste, t'es juste censé pouvoir faire le taf et rien d'autre, en fait. Donc, sa réputation, on la construit avec le temps. Donc, il faut du temps et il faut beaucoup, beaucoup de temps pour travailler sa réputation. Est-ce qu'elle monte aussi vite qu'elle descend? Donc, si elle est montée en un an, elle peut redescendre très vite en un an. Mais si on a passé 10 ans de sa vie à travailler sur un truc où on connaît le cerveau d'un photographe, eh ben, ça mettrait 10 ans à descendre.
Il n'y a même pas que le temps. Hein. T'étais passé, tu sais, dans un live d'hier, tous les lundis, on fait un live avec parfois des invités, des iconos et tout. Et tu nous avais fait la gentillesse de venir nous faire un petit retour sur ta première année dans Magnum. Et tu nous disais que ce qui était important, et c'est un truc qu'on répète tout le temps, hein, le côté professionnel, le fait d'être capable d'être perçu comme enfin d'être perçu et d'agir aussi comme un professionnel. C'est-à-dire que quand tu as un client qui te demande un truc, encore une fois, il n'a rien à foutre des excuses. Mais il veut surtout un bon travail et il veut pas juste faire plaisir en payant un truc à un photographe. Il s'attend à avoir un retour sur investissement. Et derrière, ça veut dire être capable de livrer en temps et en heure, avec les bonnes IPTC, avec des bonnes légendes photo, en anglais, en français, pas de photographe, un truc à l'heure, quoi. Et ça,
Ouais.
ça a l'air tellement basique, tellement bateau de dire ça, mais c'est tellement compliqué. Moi, je le vois avec le magazine, tu vois, avec des fanzones, quand je fais bosser quelqu'un. Ça m'arrive souvent de devoir pas engueuler parce que je suis pas sa mère, mais tu vois, de devoir revenir sur les deadlines, quoi. Dire, c'est en fait, si on s'impose des deadlines, c'est pas pour rien, c'est juste pour se respecter professionnellement, se dire, on te demande de faire un truc avec telle date et tout, tu le fais, quoi. Et toi,
Ben ouais.
c'est un truc, je pense, qui t'a aussi pas mal aidé on te fait confiance, on sait qu'on peut compter sur toi, parce que t'es rigoureux, t'es professionnel, quoi.
C'est le PA. Et puis même, ça arrive d'avoir du retard, mais il faut le prévenir. Quand j'ai des retards, il faut le prévoir en disant, attention, peut-être qu'il y aura des retards parce que la connexion, elle peut ne pas être bonne. Ou soit on peut dire, écoutez, bah, comme par exemple pour le compte de rédac, on dit, bon, ça va être, c'est comment Beyoncé? Il dit, bah, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est déjà compliqué de faire entrer un appareil photo en concert. C'est possible que je ne le fasse pas rentrer, que je finisse à l'iPhone, j'ai un iPhone 14, je peux shooter en RAW, c'est le minimum. Donc dire, ah ouais. Ok, bah en fait, si tu préviens, si tu es assez prévoyant et que tu prépares assez, ils peuvent accepter ce genre de choses, mais il faut pas. En fait, il faut communiquer. Je pense que c'est important aussi. Ça fait partie du travail en disant que je peux être en retard à cause d'un truc ou ça peut y avoir un problème de qualité parce que telle chose ou telle chose. Il faut juste, en fait, sur notre boulot aussi, c'est de prévoir, tu vois. Et même en partant en Ukraine, tu préviens l'agence en disant, bah c'est possible que je livre en retard ou que je réponde pas ou genre de trucs. Il faut, en fait, notre boulot, c'est de prévoir aussi tous les trucs. Par exemple, tu vas en manif, tu peux dire, écoute, je peux te faire quelques envois, mais soit je te le fais en plusieurs fois et toutes les heures, je te tiens au courant, ou soit je t'envoie toi à la fin de la journée, mais je choisis parce qu'en fait, je peux pas tout faire, t'es en manif, et en fait, je vais sortir mon ordi dans la rue. Donc, sois conscient de ça, tu vois. Et plus tu prépares et tu balises en prévenant, plus eux, ils pourront anticiper, en fait, les bouclages, les trucs comme ça, quoi. Ou une fois, je me rappelle, j'étais parti pour The Telegraph en commande à Calais, et j'aurais dit, vous m'envoyez en fait le soir même, j'ai juste mon appareil, j'ai pas mon ordinateur, donc je pourrais vous livrer uniquement quand je rentre. Ils ont dit, bon, c'est relou, mais ok. Tu vois, ils ont dit ça, mais personne n'en a voulu pour ça parce que j'ai prévenu. Donc il faut anticiper les trucs, il faut pas aller la fleur au fusil en disant que faut prévoir le risque en fait. Il peut y avoir une panne, peut y avoir mais pas internet, peut y avoir. Tu peux ne pas juste pas pouvoir envoyer de photos avant le lendemain, pour telle ou telle raison, il faut prévenir. Ou même le monde, quand je serai avec le monde, je leur dis, écoute, je pourrais livrer que après-demain parce qu'on part là et j'aurai pas l'électricité, donc il y aura juste assez pour que je shoote et mon téléphone et dire si je suis en vie. Mais c'est tout, tu vois, pour le tremblement de terre, tu vois. C'est ce qu'on a cru. On dit, bon, t'inquiète pas, le bouclage, l'envoi du papier, il est dimanche, donc t'as un peu de temps pour éditer. Il faut vraiment deux, trois photos les plus fortes et le reste en digital, ça peut attendre. Donc, ils te mettent au courant de leur problématique et tu les mets au courant des tiennes et c'est OK, tu vois. Faut juste baliser. Ils sont conscients que t'es sur le terrain, les choses peuvent tourner au vinaigre facilement. Donc, il faut juste prévenir. Mais ça se fait, quoi, je pense.
Ah, bien sûr, une
D'accord.
communication, c'est ultra important. Écoute, on arrive vers la fin de cet entretien qui est ultra passionnant. Merci encore pour ton temps. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec peut-être un jeune photographe, tu vois, qui a envie de se lancer là-dedans, qui sait pas trop par quoi commencer, et qui flippe un peu aussi de l'avenir de ce métier, et même si Je pense que tout ce que tu as dit, n'importe qui peut comprendre que, enfin, il faut rester optimiste, quoi. Enfin, c'est même pas, même, la question, elle se poserait même pas normalement. Qu'est-ce que tu aimerais partager comme conseil, peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu repartageais?
Comment le sauver simplement? Tu as le temps. Enfin, pour quelqu'un, si de parler de moi plus jeune, c'est tu as le temps de construire ta carrière. Ça sert à rien d'être pressé, d'être le jeune prodige, ce genre de choses. C'est le plus important, c'est de durer. Et surtout, le plus important, c'est faire des images tant qu'on peut et suivre vraiment ses obsessions. Il n'y a que les obsessions qui peuvent tenir sur le long terme et surtout faire des projets par obsession et pas parce que d'un point de vue carrière, ça nous rapportera. Ça sera toujours voué à l'échec. Si on pense que par sa carrière, il faut faire des choses qui nous obsèdent, et c'est comme ça qu'on dure.
Bah écoute, c'est un super bon conseil. On te suit du coup sur bah, un peu partout, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. T'es sur TikTok, William?
Alors, j'ai TikTok pour regarder ce qui se passe, mais je ne poste pas sur TikTok parce que c'est trop de boulot, donc je ne poste pas sur
C'est
TikTok.
clair. Quand est-ce que McDom sera sur TikTok? Ça peut être marrant, ça.
Et je crois qu'ils ont TikTok, et je sais pas ce qu'ils font, je regarde pas, mais je crois qu'ils communiquent un peu, mais principalement bah, c'est Instagram pour les photographes, mais je crois ils font un peu de TikTok pour les formats, workshop ou genre de choses.
Bah écoute, j'encourage les gens à aller voir ton boulot qui vaut clairement le détour et en plus tu l'as dit, c'est bien édité, c'est vachement agréable. Merci encore et puis à très vite, peut-être en Ukraine.
Merci à toi. Peut-être en Ukraine, ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numériques que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.